Chapitre 2. La pension Sherman. Quand commence cette histoire, la pension Sherman est une des pensions les plus connues de la ville d'Auckland, capitale de la Nouvelle-Zélande, importante colonie anglaise. Une centaine d'élèves qui viennent des familles les plus importantes du pays y étudient. De jeunes Anglais, Français, Américains, Allemands, fils de propriétaires, commerçants ou fonctionnaires, y reçoivent une éducation très sérieuse. La Nouvelle-Zélande est un archipel qui se compose de deux îles principales séparées par le détroit de Cook. Au nord, Ika na Mawi, ou île du poisson, et au sud, Tawai Ponamu, ou terre du jade vert. Auckland se trouve dans la partie la plus étroite de l'île d'Ika na Mawi, ce qui fait que la ville a deux ports, l'un à l'ouest et l'autre à l'est. Le port à l'est se prolonge par un quai qui va à Queen Street, l'une des principales rues de la ville. Et c'est précisément au milieu de cette rue que se trouve la pension Sherman. Ce 14 février 1860, dans l'après-midi, une centaine de jeunes garçons quittent la pension. Ils sont heureux car c'est le début de 2 mois de vacances. Certains d'entre eux vont faire un voyage en mer, sur le Sloughi, et visiter ainsi les côtes de la Nouvelle-Zélande. La goélette est frétée par les parents des élèves et elle appartient au père de l'un d'eux, M. William H. Garnett, ancien capitaine de la marine marchande. Les élèves qui vont partir sur le Sloughi sont dans différentes classes et ils ont de 8 à 14 ans. Mais qui sont-ils? Commençons par Doniphan et Cross. Tous deux sont les fils de riches propriétaires. Ils ont 13 ans et sont cousins. Doniphan est le plus élégant des élèves. On l'appelle Lord Doniphan, car il a un sentiment de supériorité et il aime dominer. Il est intelligent et studieux et veut toujours être le meilleur. Cross, lui, est un élève moyen, plein d'admiration pour son cousin. Baxter a 13 ans. C'est le fils d'un petit commerçant. Il est studieux, réfléchi, inventif et très adroit de ses mains. Webb et Wilcox ont 12 ans et demi. Ils viennent de riches familles de la magistrature. Garnett et son copain Service ont 12 ans. Le père de Garnett est un capitaine à la retraite et celui de Service, un riche colon. Les deux familles sont très amies et Garnett et Service ne se séparent jamais. Ils sont généreux, mais paresseux. Ensuite viennent deux jeunes garçons âgés de 9 ans. Jenkins, le fils du directeur de la Société des sciences, et Iverson, le fils d'un pasteur. Puis Dole, 8 ans et demi, et Costard, 8 ans, tous deux fils de militaires de l'armée anglo-zélandaise. Enfin, avec ces garçons néo-zélandais d'origine anglaise, il y a un Américain et deux Français. Gordon, l'Américain, a 14 ans. Il vient de Boston, mais comme il est orphelin, il vit avec son tuteur en Nouvelle-Zélande. Il est réfléchi et pratique. Il est aussi très méthodique et range ses idées dans sa tête comme il range ses affaires dans son cartable. Les deux Français sont les fils d'un ingénieur. L'aîné, brillant, a 13 ans. Très intelligent, il travaille peu et est souvent le dernier de sa classe. mais quand il veut, il peut être le premier. C'est une qualité que Doniphane lui envie. De plus, brillant et vif, très sportif, gentil, pas toujours bien habillé. En un mot, il est très français. Son frère Jacques, son cadet de 3 ans, est drôle et aime faire des blagues à ses camarades. On le punit souvent pour cette raison. Ce sont ces garçons, accompagnés d'un chien de chasse appartenant à Gordon, que la tempête va jeter sur une terre inconnue de l'océan Pacifique. Le départ est fixé au 15 février et, le 14 au soir, tous les enfants embarquent. Le capitaine Garnett doit arriver le lendemain. Une fois les enfants installés, le maître va rejoindre son équipage dans un des cafés du port. Seul le mousse est resté avec les enfants. Que s'est-il passé? On n'aura jamais la réponse. Mais une chose est sûre. L'amarre du bateau se détache et, à bord, on ne s'aperçoit de rien. Dans la nuit noire, un puissant vent de terre pousse le sloughi vers la mer. Soudain, le mousse se réveille. Il monte sur le pont et voit que le bateau dérive en pleine mer. Il crie et Gordon, Brian et Doniphane le rejoignent sur le pont. Ils appellent à l'aide, mais les lumières du port sont invisibles. La goélette est déjà à 3 milles de la côte. Ils essaient alors d'installer une voile, mais elle les pousse encore plus loin. Le sloughi se trouve bientôt à plusieurs milles de la Nouvelle-Zélande. Un peu plus tard, il croit être sauvé quand il croise un steamer. Dans la nuit noire, le steamer ne les voit pas et heurte légèrement le sloughi à l'arrière. Quand le jour se lève, il dérive sur un océan vide et les vents d'ouest les poussent toujours plus loin dans le Pacifique. On connaît la suite. Quelques jours après, commence une tempête, et pendant 2 semaines, elle est d'une grande violence. Le sloughi résiste à des vagues gigantesques et finit par échouer sur une terre inconnue du Pacifique. Pendant ce temps, à Auckland, aussitôt la disparition des enfants constatée, le capitaine du port organise des recherches. Toute la nuit, 2 petites vapeurs font plusieurs milles à la recherche du sloughi. Le vent d'ouest est de plus en plus fort et la mer de plus en plus mauvaise, mais les parents gardent espoir. Pourtant, au retour des vapeurs, l'espoir disparaît. Le sloughi est sûrement au fond de la mer, car il ramène un morceau d'épave. Ce sont en réalité des débris tombés à l'eau après le choc avec le steamer. Sur ces débris, on peut lire 3 ou 4 lettres du mot « sloughi ». Tout le monde pense alors que le sloughi est au fond de la mer, à 1 douzaine de milles de la Nouvelle-Zélande, et qu'il n'y a pas de survivants.